La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris. Nos révolutions sont trahies.
Salut à tous. On vous propose d'écouter ensemble le témoignage de Max. Max est un mec cis, blanc, il a 30 ans et ses parents sont employés. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur avant de décider finalement de ne pas exercer cette fonction. Il va nous expliquer pourquoi et comment sa politisation a influencé ses choix de vie et l'a amené à la désertion. Désertion de l'ingénierie d'abord, du salariat ensuite. Il va nous parler de son rapport économe à l'argent et aux besoins, et en quoi la solidarité, l'entraide, constituent aussi des solutions. On a aussi parlé de la place que les luttes politiques prennent aujourd'hui dans sa vie.
Moi, c'est Max, j'ai 30 ans, j'habite dans la Meuse, dans le nord-est de la France. Donc je fais partie du collectif des déserteuses, entre autres. Et voilà, j'ai d'autres activités militantes. Je suis herboriste aussi, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la suite de l'interview. Alors, dans mon cadre familial, je vais commencer par mes parents. Ma mère, elle a eu le bac après que je sois né. Elle était plutôt dans l'administration, dans le bas de l'administration. Voilà, avec quand même quelque chose qui m'a, je pense, beaucoup aidé. Elle faisait un boulot qui ne lui plaisait pas et elle disait que travailler, c'était pas vraiment ça qui était important dans la vie, qu'il fallait le faire pour avoir de la thune. Donc, je pense que ça m'a peut-être un petit peu aidé dans mon parcours. Et mon père, lui, il a eu le bac, voilà, mais il a fait sa petite carrière dans la banque, mais plutôt dans les bureaux. Enfin, c'était pas, voilà, donc plutôt des classes moyennes. Voilà, au départ dans le nord-est de la France, puis on a déménagé dans le sud. Et sinon, pour élargir un petit peu mon cadre familial, du côté de ma mère, c'est plutôt ouvrier. Voilà, donc ma grand-mère, par exemple, elle a été soudeuse, elle a travaillé en papeterie, plutôt, pas forcément une grande militante, mais c'est issu de l'immigration espagnole dans le sud de la France, donc plutôt pour des raisons économiques, c'était avant le franquisme. Voilà, une sympathie toute sa vie pour le communisme, enfin voilà, ces idées-là, un petit peu de par sa condition ouvrière. Voilà, mon grand-père, pareil, aussi issu de région parisienne, plutôt prolo, voilà, avec des origines belges un petit peu dans les gens du voyage, tout ça. Donc voilà, un parcours de plutôt ouvrier qui les a amenés jusqu'à leur retraite dans le sud de la France, où ils ont rejoint un petit peu le cadre d'où venait ma grand-mère. Et de l'autre côté de ma famille, c'est un petit peu plus. J'avais une grand-mère qui a travaillé à l'université comme bibliothécaire, un grand-père aussi qui est plus un cadre un petit peu plus bourgeois aussi. Voilà, une partie de la famille avec lesquelles j'avais moins de liens. Voilà, c'est une très grande place de la famille dans ma vie. C'était pas quelque chose qui était très fort. Et surtout, pour en revenir à notre sujet, pas vraiment de personnes qui sont issues des milieux d'ingénieurs ou même des milieux techniques qui ont fait les grosses études scientifiques. Du coup, voilà, j'étais un petit peu le premier de la famille à faire ça, donc c'est vrai que je pense que ça enlève pas mal de pression de ce côté-là. Voilà, jamais manqué de rien. Quelque part, en fait, les classes moyennes en France, mais pas précarisées. Voilà, toujours. Jamais dans une maison dont mes parents étaient propriétaires, mais en même temps, bon, la location, pas trop se poser de questions. On aimait bien manger à la maison, du coup, plutôt ça se passait bien. J'ai pas l'impression d'avoir vécu une jeunesse compliquée de ce côté-là. Mais bon, c'était pas la jeunesse jet set avion vacances aux Seychelles, mais voilà, plutôt parcours, je dirais, de français moyen, si on peut dire. Si on sait pas ce que c'est le français moyen, mais voilà. Alors, au niveau de pourquoi j'ai fait ce choix-là, alors est-ce que c'est vraiment un choix? On peut en discuter. J'étais plutôt bon élève, notamment dans les petites classes, au collège. Voilà, un collège dans une ville qui est plutôt un peu banlieue éloignée de ville, avec une population un peu du contexte social pas forcément très évident, du coup plutôt un mauvais collège comme on pourrait dire. Enfin, j'avais pas vraiment cette conscience-là à l'époque, mais après je suis allé dans un gros lycée de secteur où c'était un peu plus compliqué, mais bon globalement voilà, j'aimais bien, je me suis rendu compte que j'aimais bien les sciences physiques, j'aimais bien ces choses-là. Et puis bon, bah, quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'on fait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait des vœux et puis on va à la fac. Voilà. Moi, je n'avais pas du tout dans l'idée qu'il fallait que je sois une élite de la nation, que j'allais faire une classe prépa. Plutôt, cet élitisme ne m'était pas du tout, même n'était pas souhaitable pour moi. Du coup, j'ai fait un DUT en mesure physique parce que j'aimais bien le côté pratique. Voilà. Je pense que là, c'est là que mon goût pour les sciences appliquées est né. En fait, c'est tout un programme avec beaucoup de TP et tout ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est super. En fait, ça m'a bien plu. J'ai vraiment appris beaucoup de choses dans cette formation. Et puis, bon, bah, voilà, après, on a 21 ans, 22 ans. En fait, on n'a pas envie d'aller au Turbin. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue les études. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, ah, bah, j'aime bien ces sujets. Du coup, je vais continuer un peu à faire des sciences. Et faire des sciences appliquées, du coup, bah, écoute, une école d'ingé, pourquoi pas, voilà. Du coup, j'ai un petit peu regardé les écoles. J'ai été dans une école qui propose une prépa intégrée, du coup j'ai pas fait la prépa intégrée, je suis rentré sur dossier et je me suis dit ah bah c'est bien, on peut choisir ses cours, il y a l'air d'y avoir une possibilité de faire des choix un peu différents dans les enseignements en choisissant voilà, plus les côtés philo et tout ça. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui m'a conduit à ça, c'est un peu poursuivre un parcours d'études. Voilà. Peut-être en parallèle je peux quand même parler de mon parcours politique. Je pense que ça s'est quand même un peu imbriqué. Ce qui était rigolo, c'est que j'ai eu des bandes d'amis assez fortes. Plutôt, c'est là qu'en fait est venu mon engagement, qui plutôt était soit littéraire, soit scientifique, mais beaucoup dans la critique, au moins théorique, de la société marchande, un petit peu. Voilà, on parlait de situationnisme, on parlait de décroissance et tout ça. Et du coup, j'ai fait ma culture politique à partir du lycée, et ensuite avec mes amitiés à la fac, et un peu après. Du coup, moi, j'ai très vite baigné, en fait, dans la tradition un peu anti-tech, genre Ellul, Charbonneau, Illich, comme ça, critique de la technique et tout ça. Ce qui, vis-à-vis de ce que j'apprenais, était aussi un petit peu étonnant, mais ça nourrissait mon goût pour la question scientifique, au-delà simplement de la discipline. Du coup, quand il a fallu commencer à faire le choix de faire une école d'ingénieur, c'était déjà avec une pointe d'ironie de « ah oui, on critique la technologie et la technocratie, on devient ingénieur, tiens, c'est rigolo, voilà, on se fait des petites blagues ». Et puis en fait, il y a plein de gens qui font des parcours qui s'éloignent un peu de leurs idées. Donc on se dit « bon, bah, on va voir, tu vois ». Et je pense que ça… Moi, j'ai continué un petit peu à m'intéresser à ça et un peu à considérer en fait ce qui est finalement une formation universitaire comme un moyen d'apprendre des choses et d'avoir aussi un regard à l'intérieur sur la question. Pas forcément dans le but de travailler, enfin moi ces trucs de penser, objectif métier, tout ça, c'était pas ça. Moi j'étais bien, je faisais mes petites études, j'avais mes potes, j'étais étudiant. Et c'était confortable. Au fur et à mesure de mes études, je me suis dit quand même, ça se concrétise en fait cette histoire de diplôme d'ingénieur, il faut faire des stages, tout ça. Du coup là, je pouvais apporter une coloration à mon diplôme. Donc au départ c'était sciences des matériaux, donc voilà, en gros de la physique chimie quoi. Et j'ai choisi de m'intéresser à l'environnement. Voilà, l'environnement dans un contexte d'ingénierie et d'écologie industrielle, s'entend. Donc voilà, encore un bel oxymore. Et du coup, j'ai quand même pu avoir des cours à la fac, en école, de philosophie de la technique, de philosophie de l'environnement. Ça, c'était un peu la particularité de là où j'étais, qui m'ont un petit peu laissé sur ma faim parce que c'est des sujets que j'avais déjà un peu traités, mais je me suis dit bon voilà, ça existe et ça voir comment c'était enseigné à l'école, ça m'a aussi intéressé, voilà. Et du coup on peut un peu parler des stages, voilà, il fallait faire des stages. Moi j'étais pas très chaud pour travailler dans l'industrie, enfin c'est là au bout d'un moment où les contradictions se sont arrêtées, c'est que du coup j'ai fait des stages que j'ai pas vraiment choisi, où j'ai fait des moteurs de quad, j'ai fait la nanotechnologie, j'ai fait des filières de recyclage, étudié des filières de recyclage industriel, un peu de greenwashing pour des grands groupes du CAC 40. Je me suis dit, bon, voilà, c'est des stages, je suis payé 500 euros, après on verra ce que je fais, donc j'ai fini. Je me suis dit, je finis, j'apprends des choses, je vois un peu les choses de l'intérieur, et voilà, ça s'est un peu fait comme ça. Ma vie, c'était pas le BDE, les soirées beuveries et les collabs avec Total pour faire organiser des événements. C'était pas du tout ça. Du coup, j'avais ma petite bande de potes plutôt gaucho, plutôt aussi origine populaire, qui ont comme moi fait des études techniques avant, qui se sont retrouvés là-dedans, un peu en fait le même parcours, qui avaient de l'intérêt pour les problématiques philosophiques que je soulevais. Et du coup, on pouvait en discuter. Enfin, il n'y avait pas de blocage là-dessus, quoi. C'était pas des anti-tech patentés, mais c'était possible d'en discuter. Et finalement, bah, j'étais dans cette petite vie, à faire mes petites soirées avec mes potes et aussi à beaucoup m'enfermer dans des activités sur l'ordinateur un peu abrutissantes ou aller faire mes petits tours en vélo. Et en fait, à pas voir la pensée politique comme quelque chose que je devais faire tout de suite, parce qu'en fait, j'étais dans une ville de droite, dans une école d'ingé où la seule haute fac, en fait, c'est une école de commerce. Du coup, je me suis pas dit, c'est pas là que je vais réinventer le militantisme. Et j'avais pas ça. Moi, j'avais pas cette pratique du militantisme à l'époque. J'avais surtout une pratique théorique que j'ai quand même un petit peu nourrie au fil de ces années. Mais voilà, c'était plutôt une forme de réclusion de toutes les choses un peu droitières que peut proposer l'école d'ingénieurs. Donc, j'ai pas été fait partie de cette grande communauté. Donc, je l'ai vécu un peu par l'évitement. Voilà, en me disant que ma vie continuerait après. Voilà, c'est ça que je me disais.
Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché, le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu.
Bah, la critique de l'école d'ingénieurs, je pense que principalement, c'est qu'elle produit des ingénieurs. C'est un peu le problème, en fait. C'est-à-dire qu'au début, moi, je sortais de mon DUT, j'avais fait des trucs pratiques, j'avais appris de la physique chimie, un peu de base, comme ça. C'est un peu le même programme que les PC, les prépas PC, quoi. Et à un moment, en fait, on arrête de faire des sciences, on arrête de faire des choses comme ça, on fait de l'ingénierie, c'est-à-dire... On fait de la gestion de projet, on fait de la qualité, on étudie les normes ISO 14001, on fait des choses comme ça. On se dit bon, là, niveau intellectuel, on n'apprend plus grand-chose et clairement, en fait, on devient employable. Et en fait, c'est ce qui différencie un parcours scientifique classique, disons, bon, qui finit souvent par les mêmes métiers, mais d'un parcours ingénieur. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est on apprend à apprendre et on apprend à faire semblant qu'on sait. En fait, c'est un peu ça, les études d'ingénieur. Moi, toutes les connaissances, là où j'ai eu le plus de connaissances en kilos de connaissances, c'était quand même pendant mes années de DUT. C'était pas dans ces parcours-là, quoi. Bon, cela étant, moi, j'étais pas dans une école généraliste, plus, on est les chefs, vraiment les très grandes écoles. Du coup, c'était quand même un peu appliqué. Donc, j'estimais que quand même, on pouvait avoir des formations où c'était en rapport avec ce qu'on faisait. Mais dans l'idée de la fonction, c'est quand même que en fait, le résultat, c'est qui nous envoie les offres de stage, qui nous recrute à la fin. Et en fait, c'est des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas là pour la beauté du geste. Et dans le système dans lequel on est aujourd'hui, et notamment en France, la figure de l'ingénieur, c'est à la fois la personne qui fait autorité sur le domaine technique, ça à la limite, pourquoi pas. Mais encore, le problème, c'est que elle justifie du coup un modèle industriel, parce que si on est autorité dans un domaine technique et qu'on est l'élite de la nation, c'est que quelque part le monde industriel, en fait, c'est ça qui compte. Mais aussi, c'est en fait, c'est on sait mieux que tout le monde. Du coup, petit ingénieur, on commande notre petite équipe, mais on est quand même amené à des conditions de direction, c'est-à-dire que c'est normal que les personnes qui dirigent, en tout cas une partie des personnes qui dirigent, soient issues de cette excellence scientifique, de ces parcours où on apprend à blablater. Et en fait, on n'est pas sur un rapport démocratique au pouvoir ou même de simplement même si on voulait parler de méritocratie, en fait, qui on est pour donner des ordres à des gens qui font un métier depuis plus longtemps, en fait, toutes ces questions-là, il y a un rapport social, un rapport de classe et un rapport à la démocratie sur le pouvoir qui est complètement dégueulasse, quoi. En fait, on pourrait se dire, ah oui, les ingénieurs, c'est les gens, ils font des plans et après ils font des inventions. Mais en fait, non, c'est pas que ça. En fait, sinon, on appellerait ça autrement. Et en fait, cette fonction-là, elle est d'autant plus problématique qu'elle dépasse le cadre qu'elle semble s'être elle-même fixée. Et au niveau du parcours, il y a des cours. Au bout d'un moment, on ne sait plus les profs de nos profs de labo qui nous donnaient les cours. C'était l'intervenant de chez Vinci ou de chez Rovia qui nous venait parler de ces enrobés pour les autoroutes pendant des conférences de 6 heures. Et voilà, c'est là où on se dit, on passe à autre chose, quoi. C'est pour ça que je critique la fonction, en fait. C'est qu'on peut dire, oui, avec ce que vous avez appris, vous pouvez faire des choses super. Mais en fait, à un moment, on a quand même été formaté pour servir la grande industrie et c'est une grande partie des enseignements, elle est là-dedans. Du coup, si on veut réfléchir par soi-même à un système technique et social plus juste, en fait, c'est pas forcément avec ce qu'on apprend en école que ça va se jouer. Voilà. Du coup, moi, il y a à la fois cette critique de la légitimité des gens qui en sortent, qui sont un peu des petits chefs à qui on dit qu'ils sont l'élite de la nation, donc ça demande quand même un petit peu de recul. Et aussi, ça, j'en ai pas vraiment parlé, mais un conditionnement, c'est-à-dire que on apprend à penser comme des tableaux Excel. Et en fait, même des années après, il y a quand même toujours ce conditionnement de il y a un problème, on le résout par un problème technique, voilà. Et c'est ce que font en fait les gestionnaires bien au-delà de l'industrie, c'est on a du chômage, du coup il faut mettre en place des solutions pour baisser les chiffres du chômage. Enfin voilà, c'est des raisonnements d'ingénieurs qui imprègnent la société et qui appartiennent pas, qui sont pas que le lot des gens qui ont leur titre d'ingénieur officiellement. En fait, on est dans une société où c'est ça en fait la manière de diriger. Et du coup, en acceptant ou en promouvant le fait d'être dans des écoles qui apprennent ça, en fait, on est clairement au cœur du problème, d'une grande partie en tout cas des problèmes au moins sociaux et de direction, sans parler des problèmes environnementaux. Parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé pour l'instant, mais au niveau de l'écologie, en fait, on est sur un système qui encourage des logiques qui sont mortifères, avec des chiffres avec qui on peut faire dire ce qu'on veut. Et au niveau de la fonction et du rapport qu'on a, ça va pas du tout, en fait. Voilà. Pour en revenir à faire une petite parenthèse sur mon parcours, en fait, moi, quand je suis sorti d'école, et avec tout le background que j'ai donné, je ne me suis pas dit que j'allais être ingénieur, en fait, en vrai. C'est pas ça qui allait se passer. Et c'est pas ça qui s'est passé, finalement, après mon diplôme. Donc, je suis sorti de mon petit stage à Paris où j'ai fait de l'éco-conception et c'était greenwashing. Je me suis dit, bon, allez, c'est une belle expérience, tout ça. Moi, je pense que voilà, les expériences, elles sont bonnes à prendre tant qu'on ne fait pas trop de mal autour de soi. Mais je suis rentré chez moi, entre guillemets, là où il y avait ma famille dans le sud, tout ça, mes amis, mes amitiés fortes et tout ça. Et là, j'ai pas travaillé, enfin, j'ai pas eu d'activité salariée. Je me dis qu'au moins, je vais prendre un peu le temps pour digérer. Donc, pendant un an ou un an et demi, j'ai pas fait ça. Je n'étais pas forcément très heureux d'ailleurs à ce moment-là, mais bon, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que je fais. Du coup, j'étais un petit peu avec mes amis, j'ai commencé à aller à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes. Il y avait un peu Sivins qui commençait du coup à m'intéresser à la vie politique sur place, sans être un grand militant, mais me dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que c'est un petit peu ces alternatives. Sivins, c'est la lutte contre le barrage donc qui est dans le Tarn. Moi, j'étais dans le coin de Toulouse, l'Ariège, tout ça, donc c'était un peu ma ZAD de proximité. Alors, je ne sais plus à quel stade ils en étaient à l'époque, mais voilà. Il commençait à y avoir des rassemblements, c'était avant Rémi Fraisse et toutes ses joyeusetés. À ce moment-là, j'avais quand même un petit peu des gens dans ma famille bienveillantes, mais qui me disaient quand même, ton diplôme, il faudrait que tu en fasses quelque chose et tout ça. Et puis je me suis dit, bon, je vais pas faire l'ingénierie, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me suis dit, bon, l'industrie, c'est pas foufou. Du coup, je me dis, j'avais déjà une culture anarchiste, donc je me suis dit, l'État, c'est quand même pas non plus la panacée, mais je me dis, voilà, la fonction publique, se dédier au bien commun, tout ça. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer de voir comment on peut mettre à profit ces compétences-là. Et du coup, j'ai été prof contractuel, hein, j'ai pas passé le concours, je voulais voir un peu ce que c'était, ce monde de l'enseignement, qui, en fait, moi, en fait, quand on arrive au stade d'ingénieur, en fait, moi, ça m'allait d'être dans un lycée, un collège. J'ai pas passé une jeunesse très difficile. Voilà, j'étais en décalage, mais en fait, ça allait, quoi. C'est une institution qui me convenait. Du coup, je voulais voir un peu ce que ça faisait de revenir de ce côté, mais de l'autre côté de la barrière. Et du coup, j'ai exercé donc la physique-chimie, donc d'abord sur un contrat en cours d'année que j'ai récupéré, où les gens étaient très contents de me voir. Je me suis dit, ah ouais, quand même, travailler c'est bien, les gens ils sont contents qu'on soit là. J'étais dans un établissement au fin fond de l'Ariège, la montagne, plutôt une zone pauvre et tout ça. Je me suis dit, bon voilà, je ne suis pas en train d'enseigner à des bourges qui vont faire les lycées de centre-ville à Toulouse, donc j'étais content aussi. Et voilà, donc je me suis dit, waouh, ouais, enfin de l'humain, la fin des tableaux Excel et tout ça. Donc au début, ça se passait bien. Après, ils m'ont dit, ouais, c'est super ce que tu as fait, vas-y, tu veux pas refaire une année. Du coup, j'ai refait une année, j'ai fait ça un an et demi. Et puis là, bah, refaire toute l'année, bah, j'ai vu la violence sociale. Tous les jeunes qui étaient tristes, qui n'étaient pas à leur place, qui étaient super libres dans leur tête, mais en fait dans cet enfermement de l'éducation. Tous les profs névrosés, les machins, enfin les gens qui se faisaient du mal, quoi. Les élèves alcooliques en seconde, les élèves qui décèdent et en fait on ne sait pas trop comment gérer ça parce qu'il n'y a rien qui est pensé pour le bien-être des gens. Enfin, il y a plein de choses un peu voilà, qui arrivent. Tu te dis, bon, bah, en fait, c'est ça la vie d'un établissement aussi. Mais bon, les gens sont sympas, mais voilà, en fait, à un moment. Et puis, qu'est-ce que c'est le rapport à l'autorité? Qu'est-ce que c'est un enfant de 12 ans qui te dit moi, en fait, j'ai besoin qu'on me donne un cadre, qu'on m'engueule et tout ça. Je me suis dit, ok, en fait, les petites cours d'histoire, je me suis dit, en fait, des gens qui réclament un pouvoir fort, en fait, c'est le fascisme. Je me dis, qu'est-ce que c'est un système qui crée des élèves qui sont fascistes à 12 ans? Bon, c'est un petit questionnement sur qu'est-ce que j'encourageais, voilà. Et le clou dans le cercueil, à la fin de l'année, on me dit non, mais physique-chimie, il n'y a pas de poste l'année prochaine. Par contre, si tu veux, on a un poste de sciences de l'ingénieur. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de, de transformer mes petits fils d'éleveurs ariégeois en ingénieurs qui vont rejoindre Airbus à Toulouse? Non, en fait, non, ça va pas, c'est pas ça qui va se passer. Du coup, c'est là que j'ai consommé ma désertion, c'est-à-dire que j'avais déjà déserté l'ingénierie, mais là j'ai déserté le salariat à ce moment-là. Donc c'était en 2017. Et voilà, en même temps, la vie à Toulouse, j'arrivais pas, c'était la ville, il y avait plein de dynamiques. Voilà, j'essayais d'aller faire un peu la boxe autogérée, la chorale, le machin, mais en fait ça marchait pas, j'arrivais pas à m'inscrire dans la vie politique de cette ville, donc beaucoup de frustration. Et puis mes potes autour de moi, toujours anarchistes, toujours super. Mais en fait, voilà, j'avais du mal à rester là-dedans. Si, quand même, ce que j'ai fait, parce que comme je bossais à mi-temps, j'avais mon pote qui s'installait en maraîchage en Ariège, du coup, je l'ai aidé à monter son installation. Ça, c'était cool, parce que c'est quelqu'un dont je suis très proche et dont le projet, je me disais, bon, son projet, il est super. En fait, il est toujours super, parce qu'il continue à faire ça. Mais je me suis dit, quand même, l'Ariège, les gens, dès que tu parles de politique, ils te parlent des énergies, des pierres, tout ça. En fait, j'ai pas non plus envie d'habiter là. Je me suis dit, c'est super beau, mais en fait, je reviendrai à la retraite. J'ai pas envie d'y aller maintenant. Du coup, là, j'avais besoin de changement. Alors, c'est vrai que le train du succès, je l'avais un peu pris pendant les études, mais j'en fais ce truc de je suis embauché après l'école et du coup, je gagne 3000 balles et je suis considéré. Moi, je suis descendu de la gare avant. Donc, en fait, c'était peut-être pas si difficile. Et autour de moi, pour en revenir à ce rapport familial, en fait, il n'y avait pas d'ingénieur. J'avais pas cette pression de « mon fils, tu seras ingénieur, mon fils, tu seras prof, mon fils, tu seras… » C'était plutôt « bon, en fait, dans des gens qui ont fait Bac plus 5 dans la famille, en fait, il n'y en a pas trop. Il y en a quelques-uns, j'en ai en tête, mais en fait, c'était très inédit. Du coup, j'avais pas cette pression-là. Bon, c'était plutôt la pression, c'était « bah, quand même, tu as fait des études, toutes ces connaissances, tu les as acquises pour rien. » Et plutôt, notamment mon père, il me disait, mon père qui quand même, ça va en fait politiquement, on s'entend quoi, c'est bien. Il me disait, tu pourrais faire de l'ingénierie un peu verte, vertueuse, je sais pas, fonder une... t'organiser avec des gens comme toi pour faire de l'ingénierie responsable et tout ça. Et voilà, c'était plutôt ça un peu la pression, enfin, la pression entre guillemets, en tout cas une insistance sur ça, mais pas au point où je me dis, ha, c'est trop dur, il faut que j'essaye ça, sinon je vais avoir peur d'avoir, pas laisser passer cette chance, mais de ne pas avoir répondu à leurs attentes. Donc c'était, pour moi, ça a été assez gérable. Et je pense que c'est ça, en fait, aussi, qui m'a rendu cette désertion pas si difficile à mettre en œuvre, finalement. Au-delà de, par exemple, bon là je reviens sur autre chose, mais mon rapport personnel à l'argent, en fait, moi j'ai jamais trop aimé avoir de la thune, j'ai jamais trop aimé consommer, j'avais... Tous ces trucs-là qui peuvent faire qu'on s'installe dans un confort, j'avais pas non plus cet exemple de « Ah, il faut gagner plein d'argent pour avoir un crédit, pour acheter une maison, parce qu'en fait, mes parents n'étaient pas propriétaires. » En fait, mon contexte de classe qui était, sans être pauvre, était quand même éloignée de ces questions-là. Elle m'a vraiment simplifié la tâche. Et j'ai pas eu plus de pression que ça. Ça a été un moment, bon, bah, vas-y, bah, vite ta vie, quoi. Voilà, ils étaient contents que j'ai été prof. Ils ont vu que ça me rendait malheureux. Du coup, après, la suite, c'était plutôt respecter les choix et voir où ça m'amènerait. Sachant que je me suis jamais non plus inscrit dans une rupture en disant jamais, c'est bon, je vais me faire tatouer le visage, comme ça, je pourrais plus jamais travailler. Enfin, j'étais pas dans une... dans une rébellion complètement clivante, enfin voilà, ça s'est plutôt bien passé, ouais, pour moi.
Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés sans rêve et sans.
Ça, j'en ai pas parlé dans mon parcours politique, mais pendant que j'étais prof ou que je glandouillais avec mes potes en me demandant ce que j'allais faire, en fait, je suis souvent allé à des événements politiques et notamment à Bure, où du coup, j'ai été à un camp autogéré en 2015 avec des potes et en fait, ça m'a, j'ai trouvé ça incroyable, c'était super, c'était vraiment... J'ai découvert ce que c'était l'autogestion, j'ai découvert toutes les luttes, j'ai découvert comment faire des choses super... sans grands moyens, c'était pas la grosse organisation, c'était pas un cadre industriel qui permettait des choses super, c'était vraiment la débrouille, les réseaux, et en fait c'est des choses qui m'ont beaucoup parlé. Alors Bure, oui, c'est là où il y a le projet d'enfouissement de déchets nucléaires, donc c'était là-bas en fait, donc aussi le plus gros projet industriel de France et peut-être même d'Europe. Du coup, tout de suite ça m'a parlé, critique de la technique, critique de la société industrielle, critique de l'énergie, tout ça, en fait, tout ça, ça s'alignait. Du coup, j'avais beaucoup de sympathie pour cette lutte. Et du coup, c'était loin de chez moi, parce que je suis dans le sud-ouest, mais je suis revenu régulièrement pour les événements, pour aller à des manifs, hein, toute cette... C'est aussi là que j'ai découvert, finalement, l'action directe, l'auto-organisation, des gens de partout qui se retrouvent pour un idéal commun, enfin, vraiment la pratique politique, que j'avais pas vraiment... palpé quand j'étais dans ma vie urbaine à Toulouse. Et du coup, voilà, 2017, qu'est-ce que je fais? J'ai fini les études, je me suis dit, bon, bah là, je suis malheureux, ça marche pas. Du coup, où est-ce que c'est l'endroit? La dernière fois où j'ai été heureux, je me suis dit, en fait, c'était là-bas. Du coup, j'y suis allé. J'ai pas vraiment beaucoup plus réfléchi. J'avais un mois de préavis pour mon appart dans le sud. Du coup, bon, bah, j'ai attendu un mois, j'ai rendu les clés et puis je suis parti. Je suis parti donc sur un lieu collectif où je connaissais à peu près personne. J'avais quelques contacts, quelques gens que j'avais rencontrés, mais je me suis dit voilà, je vais aller là-bas, on va voir. Et voilà, en fait, ça fait 5 ans que je suis dans le coin, donc je pense que ça a quand même été un tournant assez, assez fort dans ma vie. Puis en arrivant là-bas, bon bah en fait les gens c'est le prix libre, c'est l'auto-organisation, la récup, les maraîchers, les gens qui nous soutiennent la lutte, qui nous amènent du pain. Enfin, c'était vraiment pas les tentations marchandes de la ville, de aller boire des petits coups dans des bars pour sociabiliser. En fait, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouvais. Voilà. Vivre en dortoir, en fait, moi, j'ai jamais vraiment aimé avoir un chez moi foufou et inviter et faire des grandes réceptions. Du coup, là, j'étais tout le temps pas chez moi et en fait, c'était super. Moi, j'adorais ça. Et vraiment, un retour à ce qui a été peut-être la simplicité volontaire que j'avais comme idéal politique à un moment. Et même si ça ne s'appelait pas comme ça là-bas, c'était dans l'idée vivre avec peu, de liens humains, tout ça. Enfin, beaucoup de choses politiques qui m'ont parlé. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, la ville, ça va. La campagne avec des gens perchés, ça va. J'avais besoin d'action politique, j'avais besoin de vie collective, j'avais besoin d'autogestion, j'avais besoin de... Voilà, donc du coup, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, ça me va. Et du coup, je me suis installé un peu là-bas. J'étais allé sans plein quinquennal de qu'est-ce que j'allais faire les années d'après. On fait pas ça en général, mais du coup, je me suis dit, allez, la lutte, pourquoi pas. Alors, si on peut peut-être repartir sur ce que c'était mon rapport à l'argent déjà quand je travaillais. J'ai travaillé un an et demi, donc c'était voilà, j'ai fait la retraite à 25 ans, donc ça va aller assez vite. Moi, en fait, quand je bossais, donc j'étais prof contractuel, pas à temps complet, du coup, en fait, ce que d'aucuns appelleraient la précarité financière finalement. Mais en fait, j'étais en Ariège avec mon pote qui faisait des légumes, allogé dans une petite chambre sur le lycée. En fait, j'avais pas vraiment de frais. Du coup, je vivais en dépensant pas de thunes. Ce qui était très bien parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de besoin et d'envie d'en dépenser. Et j'avais envie peut-être de me dire, ah, si je travaille maintenant, en fait, c'est. J'ai pensé à ça tout de suite, c'est je mets de l'argent de côté, je prépare des droits au chômage. Moi, j'avais vraiment cette idée que déjà, que travailler le CDD, c'était une manière d'avoir droit au chômage. Enfin, pour moi, c'était déjà très, très clair dans ma tête. Et en fait, je me suis retrouvé d'un moment où j'étais logé là où je travaillais, où je dépensais rien, à un autre endroit finalement, mais qui se trouvait être une ZAD ou un truc comme ça, mais où je dépensais rien et où je gagnais pas vraiment beaucoup d'argent non plus. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment évolué. Je suis resté sur ce truc-là. Et en fait, je me suis dit qu'avec mes 700 euros de chômage de prof contractuel à mi-temps, en fait, j'étais le roi du pétrole. En fait, quand j'habitais en Meuse avec ça, je me suis dit, en fait, je me sentais riche, en fait, par rapport à mes besoins. Et même par rapport à des gens qui étaient autour de moi et qui étaient précaires, alors à différents niveaux. Hein, mais en fait, ça ne m'a pas créé de rupture. Moi, j'étais dans ce que je faisais. Je n'étais pas à me dire, ah, je vais renoncer à mon train de vie. En fait, j'avais pas de train de vie. C'était pas. Voilà, moi, c'était vraiment un truc. Peut-être une manière d'être à pied, j'en sais rien, mais en tout cas, donner ça une valeur à l'argent qui est vraiment celle d'un outil à utiliser en dernier recours. Enfin, moi, c'était clair, c'était ça, quoi. Moi, ça correspondait à mes besoins. Et en même temps, j'avais un rapport à l'argent un peu, peut-être un peu maladif aussi, à pas vouloir dépenser, à avoir peur de manquer. Alors, je sais pas d'où ça me vient, mais toujours à mettre de côté. Et en même temps, à me dire. Si j'utilise de l'argent, c'est pour de la bouffe, c'est pour utiliser pas pour moi, mais pour aussi les gens autour de moi. Donc c'était un rapport à la fois économe et collectif. A toujours préféré, si j'avais le choix, entre une canette de bière forte et une belle pinte de blonde belge dans un bar. Voilà, c'était moi, c'était toujours le moins cher, le machin. Et en fait, certaines formes de rapport punk à l'existence que j'aimais bien, en fait. Faisait un peu rêver du coup voilà, c'était partager un petit peu. C'était pas mon idéal de tout céder de charité chrétienne. Moi, j'ai pas du tout été élevé là-dedans, mais faire plus de choses avec moins d'argent, c'était vraiment ça. Et du coup, c'était tout à fait en adéquation avec les contextes de lutte. Alors, pour parler de ça, en fait, c'est vrai que en même temps, je dis ça, et en fait, cette pratique, ce fait d'avoir travaillé au fin fond de l'Ariège et d'avoir mis de côté, et que même des fois, en fait, même c'était ma jeunesse, c'est-à-dire que quand mes mères me faisaient un chèque pour Noël, en fait, j'allais pas m'acheter une PlayStation, juste ça a fini sur mon compte, quoi. En fait, j'ai toujours fait ça, et du coup, j'ai jamais eu cette difficulté, en fait, de être à zéro à la fin du mois et de revenir à 500 quand on a le RSA. Et en fait, c'est beaucoup plus facile, j'ai trouvé dans la pratique et en discutant autour de moi, d'avoir un matelas qui, on peut considérer un privilège, je sais pas si c'est un privilège de classe dans mon cas, mais en tout cas un privilège, que du coup, j'ai pas à me poser la question. C'est-à-dire que si à un moment, voilà, il y a une grosse merde, en fait, ça va se résorber par la suite avec les autres manières d'avoir de l'argent. En fait, ça m'a jamais vraiment posé souci. J'ai toujours eu, en fait, dans mon rapport un peu bizarre à l'argent quand même, cette idée de sécurité. Et c'est ce qui fait, par exemple, que pendant le confinement, en fait, je me suis dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et en fait, les quelques sous que j'avais mis de côté, en fait, je me suis dit, bah vas-y, j'achète de la pierre, comme ça je pourrais loger en Meuse des gens s'il y a besoin. Et en fait, voilà, du coup, j'ai le rapport à la propriété qui s'est fait. Mais toujours dans un calcul de, en fait, l'argent, c'est un outil. Et quand on est à zéro, c'est chiant, mais tant qu'on n'est pas à zéro, c'est OK. Et en fait, j'ai jamais eu des merdes au point que ça me pose problème. Bon, voilà, il y a eu des véhicules collectifs à racheter. Bon, il fallait mettre de l'argent, en fait, ça allait, et puis ça s'équilibrait. Enfin, moi, j'ai jamais eu cette crainte-là. Et du coup, quand je fais un petit peu mes comptes, je sais pas si on veut parler de ma manière de faire les comptes, mais en fait, mes 500 balles de RSA, parce que du coup, j'ai eu 2 ans de chômage, mais après, 1 an et demi de chômage, mais après, j'ai eu 3 ans et demi de RSA, là, je suis au RSA, ça rentrait, en fait, ça colle. Et là, c'est là que, pour moi, la ruralité est une solution, c'est qu'en fait, on peut vivre à la campagne en étant, justement, quand même dans des réseaux d'entraide et de faire ensemble qui sont un capital social plus qu'économique, mais en fait, c'est possible de vivre au RSA à la campagne, voilà. J'essaye de pas trop le dire fort à Pôle emploi parce que sinon ils vont douter de ma volonté du retour à l'emploi. Mais voilà, moi pour moi c'était ça. C'était avoir peu et équilibré et en fait pas. et du coup jamais être à zéro et toujours s'organiser vis-à-vis des ressources qu'on gagne par rapport aux ressources qu'on a. En fait, c'est ça pour moi le secret de la sobriété heureuse, et de ne pas penser à la thune. Et voilà, et des rapports différents selon beaucoup de potes autour de moi qui sont dans la merde, qui n'ont pas de sous, et du coup réfléchir à cette entraide collectivement sur la thune, c'est, pour moi, c'est vraiment un objectif politique aussi.
Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence.
Dans mes activités de tous les jours, je dois dire que je m'ennuie pas, ça va. J'essaye de pas trop me cramer par rapport à d'autres de mes collègues dans la lutte, mais les luttes, c'est mon activité principale, je dirais. Donc que ce soit les luttes anti-nucléaires, pourquoi pas, mais aussi anti-industrielles ou sur les différentes thématiques. Disons de transverse, de je sais pas, de féminisme, de machin, de toutes les queer et toutes les thématiques qui peuvent traverser les lieux de lutte, qui sont en fait pas du tout limitées au sujet de pourquoi on est là sur un lieu de lutte. Si vous voyez les exemples de la ZAD et tout ça, on est clairement là-dedans, c'est penser la société dans son ensemble. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et puis à la fois donc ces luttes un petit peu, disons, autonomes, et aussi les luttes pour l'ancrage local, c'est-à-dire les cafés associatifs, les groupes d'autonomie alimentaire dans les petites villes, donc plutôt avec des amis un peu gilets jaunes, comme ça on pourrait dire. Aussi le soutien aux luttes paysannes, parce que du coup j'ai des gens autour de moi qui essayent d'être paysannes et de faire la lutte antinucléaire. Donc c'est vraiment tout ça. Et faire du réseau dans les groupes à d'autres endroits en France, se donner des coups de main, avoir des capacités logistiques pour faire des événements chouettes, enfin tout ça en fait, toutes ces choses-là, c'est une activité de lutte multiforme qui me prend, je dirais, la plupart de mon temps. Voilà, plus essayer quand même de, dans un territoire comme la Meuse, qui est souvent dénigré et par le pouvoir et par en fait la vision qu'on en a, redonner une ces lettres de noblesse ou justement de prolétariat à des endroits un peu déclassés, et faire en sorte que la Meuse soit un endroit beau et souhaitable. Et du coup, c'est une autre activité que j'ai, qui est pour moi un peu du militantisme. J'ai des activités aussi de transformation et de cueillette de plantes médicinales qui permettent d'avoir un rapport un peu autre et aux gens qu'on côtoie quand on parle de ces produits-là, et de dire qu'en fait la campagne elle est super et que c'est pas juste un gros trou pour mettre des déchets nucléaires et des monocultures de céréales sur 400 hectares. Donc je trouve ça aussi intéressant. Voilà, c'est mon petit côté écolo. Voilà, mais clairement, moi ce que j'ai vu dans les désertes heureuses, c'était une manière encore d'élargir le spectre de mon action politique. Pour moi, c'était évident que c'était en lien avec les luttes, mais c'était aussi une manière de ne pas faire que la lutte de territoire et de revenir à des thématiques que j'avais un peu écartées, parce qu'en fait, dans tout ce que je dis, l'ingénierie, au-delà de mes sympathies pour l'antitech, en fait, ça prenait pas de place. Et je me suis dit, bon, je peux pas juste continuer à être avec mes potes queer issus des sciences sociales sympas. Je me dis, à un moment, il faut quand même affronter cette responsabilité d'avoir eu ce cursus et de voir comment on peut avancer en essayant que des gens qui pourraient détruire le monde ne le détruisent pas. Voilà. En fait, je trouve que l'objectif de ce collectif et de ce que j'y vois, en fait, il est assez humble. C'est pas de dire on a la grande solution. Nous, on est des sachants et on va vous dire faut déserter parce que c'est la solution et écoutez-nous parce qu'on a fait des études. C'est vraiment amis nuisibles en puissance d'ingénieurs. En fait, non. Ne perdez pas votre temps à faire du greenwashing pour Veolia et de vous dire en fait, c'était pas ça vraiment la politique. Maintenant, je veux faire un écolieu ou du coup, je. En fait, non, c'est trouver des raccourcis pour que des gens perdent pas leur temps à faire de la merde pour des grosses boîtes qui leur font croire que l'écologie existe. Parce que même si on n'est pas dupe, des fois on a envie de s'en convaincre pour un peu. Et qu'après ils contractent un crédit, et qu'en fait c'est trop tard, et que du coup ils ont une famille, et qu'après ils ne désertent plus, et que c'est fini, ils habitent dans la Drôme, dans leur super baraque, et ils bossent dans les centrales de la Vallée du Rhône. En fait, voilà, c'est. Voilà, moi mon idée c'est éviter ça et accepter ma responsabilité en tant que personne ayant reçu gracieusement de l'État une formation d'ingénieur quand même, pour ensuite, pas en dégoûter, mais en décourager d'autres. Et en réfléchissant à ces questions de la place de la personne éduquée aux questions techniques dans la société.
Et tout ça, ça te rend heureux ?
Alors, dans Déserte Heureuse, il y a Heureuse, et je pense que ce qui fait aussi que j'aime bien m'investir dans ce collectif, par rapport à mes autres collectifs de lutte, c'est qu'en fait j'ai remarqué que ça répondait à un besoin personnel, à une envie d'explorer d'autres horizons politiques et d'autres horizons humains, d'être avec d'autres personnes. Et en fait, moi je suis principalement actif dans ce collectif parce que ça me fait du bien, que les gens sont super, que là on se retrouve au bord de la Dordogne pour discuter de ces questions-là. Et en fait, voilà. Moi, je pense que dans la lutte ou dans la désertion, il faut avant tout, en fait, on n'est pas payé pour le faire souvent, enfin, il y a des niches sûrement, mais moi, je ne suis pas payé pour faire ça. Je veux faire des choses qui ont du sens politiquement et qui me font plaisir et qui me font du bien. Voilà, de même que je me suis barré de ma fonction de prof dans les super contreforts de l'Ariège pour aller au fin fond de la Meuse, en fait, c'était pour être heureux, là, je continue là-dedans. Et ce n'est pas faire du développement personnel que de dire ça, c'est de dire, en fait, il faut conjuguer les deux, il faut conjuguer déserte et heureuse. En fait, ce titre, il n'est pas là pour rien. C'est vraiment, les luttes, c'est pas un sacerdoce, c'est pas le devoir, ce que vous devez à la nation parce que vous avez détruit le monde dans vos stages ou dans votre vie d'ingénieur. C'est en fait aussi vous dire que ça va potentiellement et même probablement vous rendre plus heureux parce que simplement plus en phase avec vos envies politiques. Enfin, il y a ça aussi, c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, quand on est dans la schizophrénie du travail salarié, de merde, en fait, on n'est pas vraiment heureux. On a des palliatifs, mais voilà, la liberté, c'est pas facile à gérer, mais en fait, je pense qu'à un moment, c'est nécessaire, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont intéressés par ces thématiques-là ? Déjà, je me dis que si on vous en est à écouter ce podcast, c'est qu'il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées dans votre parcours politique. Du coup, j'ai envie de dire pour l'instant, pas de pression, voilà. En fait, à un moment, la première chose à faire vraiment, c'est, malgré tout ce que j'ai pu dire sur la nécessité des luttes, c'est en fait arrêter de faire tourner les rouages du système qui nous broie. En fait, déjà, ça c'est vraiment hyper bien. Et ça va vous rendre heureux et vraiment, enfin en fait, c'est chouette de faire ça. Et continuez à vous renseigner, continuez à échanger, à sortir de vos balles de promo d'ingénieurs et vos entre-sois techniciens pour rencontrer d'autres gens. En fait, je pense que vous rencontrerez d'autres perspectives politiques et, je sais pas, d'autonomie. Et voilà, en fait, c'est vraiment c'est le moment, une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dedans, c'est aller ailleurs, aller faire du woofing si ça vous parle, aller cramer des barricades si ça vous parle. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Mais en fait, il faut un peu se lancer, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire après un parcours d'ingénieur. Il faut se rendre compte quand même que, alors je ne sais pas, dans vos situations personnelles, qu'est-ce que c'est de ne plus avoir d'argent, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à régler personnellement. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même dans un cadre où c'est quand même hyper facile de faire ça par rapport à d'autres pays, par rapport à des gens qui ont eu des mômes à 19 ans ou qui ont, je ne sais pas ce que c'est votre parcours, hein, mais ou qui ont un crédit immobilier qu'ils ont fait parce qu'en fait, ils se sont dit « Ah, il faut que je fasse un crédit, sinon je n'ai jamais trouvé de raison d'aller au boulot. » Si vraiment, si vous pouvez essayer vraiment de vous débarrasser de ce truc de bosser dans l'industrie qui vous paraît nécessaire et casser ces barrières-là et en fait aller voir ailleurs. Et dans tout ce qui est non marchand et dans tout ce qui est les politiques, la politique chouette et voilà. Moi, je dirais c'est ça et vraiment, ça va vous faire du bien. Et en fait, malgré tout, il y a quand même une forme de responsabilité, je dirais, à faire ça et à pas juste se dire « Oh non, je suis ingénieur ». En tout cas, la responsabilité, elle n'est pas vis-à-vis de l'État qui vous a payé vos études d'ingénieur, pour moi. Elle est vraiment du côté de tout ce qu'il y a à construire de chouette et à détruire de pas chouette dans la société aujourd'hui.
Nos chefs vont se retourner, plus de dirigeants, plus
Vous écoutiez le témoignage de Max, un podcast des Déserteuses. La chanson qui a accompagné cet épisode, c'est « La vie s'écoule », interprétée par René Binamé et écrite par Raoul Van Egem. On a hâte de vous rencontrer en vrai pour discuter. Pour savoir où et quand, passez par notre site internet déserteureuse avec un s.noblogs.org. À très vite.